Cette émission vous est présentée par les laboratoires Mességuet, spécialistes de la phytothérapie, aromathérapie et cosmétiques naturelles depuis plus de 60 ans.
Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Fabrice.
Chaque lundi, Nathalie Simon sur Nutri Radio, 9h-10h pour faire le plein de vitalité, pour bien démarrer la semaine. Nathalie, comment allez-vous?
Oui, c'est exactement la question que j'allais vous poser, Fabrice. Si je vous réponds comme un lundi, vous allez imaginer que ça ne va pas. Mais moi, quand le lundi arrive, ça me met en joie. J'adore quand une nouvelle semaine commence, pas vous?
Moi aussi, j'adore. Vous étiez en train de réciter un truc.
Pas du tout. Pourquoi?
Je ne sais pas, j'avais l'impression que j'étais parti et que vous allez faire ma présentation. Mais oui, moi j'adore. Depuis que vous êtes sur Nutri Radio le lundi 9h-10h, ça a changé la perspective de beaucoup de monde, croyez-moi.
Parce qu'en plus... Non, mon bon Blaze, arrêtez.
Bon,
arrêtez
de me flatter. Vous savez, j'ai réécouté de nombreuses émissions en podcast. Oui. D'ailleurs, toutes les émissions de Nathalie Simon sont disponibles en podcast à partir du dimanche suivant la diffusion, donc 18h. Et donc, c'est ce dimanche 18h. Et c'est pour dire, c'est hyper inspirant. Et aujourd'hui encore, avec votre invité, et là, plus que jamais, peut-être même, qui comprendra, on va se régaler.
Mon invité qui est une amie, Hélène Gâteau, qui est vétérinaire, journaliste et animatrice. Elle a la quarantaine, elle n'a pas d'enfant, Hélène, elle n'en veut pas, jusque-là, rien d'anormal, c'est son choix. Mais voilà, Hélène a décidé, plutôt qu'un bambin, d'avoir un colonel à quatre pattes qui fait ouf ouf oui. Hélène est une dog mom, comme on dit Fabrice, et à travers un livre plutôt militant, intitulé « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant », elle explique ce choix de vie d'une manière directe et documentée, pas de faux semblants avec Hélène. Et justement, on la rencontre sans colonel. Enfin, colonel, il n'est jamais très loin. Bonjour Hélène.
Bonjour Nathalie, bonjour Fabrice et bonjour à tous. Alors effectivement, colonel n'est pas loin de moi. Là, il est en train de roupiller sur le canapé à côté de moi.
Alors Hélène, on se connaît depuis longtemps, je tenais vraiment à te recevoir ici pour que tu nous expliques, alors pas forcément ton non-désir d'enfant, parce que ça t'appartient, mais surtout que tu nous expliques la place que ton chien, colonel, tient dans ta vie. Alors pourquoi est-ce que tu as décidé d'en parler déjà?
Alors en fait, les deux sont quand même liés, mon non-désir d'enfant est aussi lié à la place que le chien a pris dans ma vie. C'est difficile pour moi de parler de l'un sans parler de l'autre, puisque ce sont vraiment deux trajectoires dans ma vie qui à un moment se sont rencontrées, c'est-à-dire le non-désir d'enfant, en fait il s'est, admettons que pour une femme, il était, je sais pas moi, il était un petit peu élevé, et puis pouf, il s'est affaissé, et puis à côté de ça, eh bien la place de l'animal dans ma vie, elle a augmenté. Donc en fait, les deux pour moi sont vraiment liés. Et
tu veux dire, Hélène, nous expliques que quand tu as adopté, parce que c'est comme ça qu'on parle d'un chien, colonel, au départ, c'était pas pour remplacer un non-désir d'enfant, c'est cela?
Alors, en fait, si, c'est-à-dire que quand j'ai pris mon chien, je voulais absolument un chien, je savais déjà que je ne voulais pas d'enfant. Oui. Et je voulais absolument un chien. Et c'est au fur et à mesure de la relation avec mon chien que je me suis dit, mais quand même, ce que je suis en train de vivre avec lui, je trouve que ça ressemble pas mal à une forme de parentalité par rapport à tout ce que ça vient impliquer dans la relation que j'ai avec mon chien. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'interroger sur ça, comment je pouvais lier les deux. Et je me suis dit, moi je suis une femme qui ne veut pas d'enfants, cependant j'exprime à travers mon chien une forme de maternité et de parentalité, parce qu'il y a pas mal de choses qui se superposent, mais qui me suffit à moi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller plus loin, et je viens avec mon chien combler, je pense, une forme quand même peut-être d'instinct maternel ou quelque chose comme ça qu'on a tous quand on est une femme, ou qu'on a tous un instinct paternel quand on est un homme. Mais moi, la façon dont le chien vient le compléter, ça me suffit en fait.
Bon, évidemment, colonel, c'est pas un enfant. Il est un petit peu trop velu pour être un enfant.
Oui.
Il est adorable. Mais qu'est-ce que tu penses de ce mot « dog mom » ?
Alors, moi, je trouve ça plus sympa que mes mères à chien, en fait.
Oui, mais bon, alors, qu'est-ce que tu penses de ce mot « mes mères à chien » ?
Alors, mes mères à chien, c'était un peu dévalorisant, un peu cynique, et ça, tout de suite, on a l'image de la nana qui n'a pas de compagnon, qui n'a pas d'homme dans sa vie, qui a peu d'amis, et qui vit recluse sur son animal, en fait. En gros, c'est sa seule compagnie. Donc ça, je trouve ça assez moche, et c'était un petit peu l'image qu'on pouvait avoir il y a, je sais pas moi, une trentaine d'années de ces femmes qui qui assumaient le fait de ne pas avoir d'autre vie qu'autour de leur animal. Aujourd'hui, je trouve que le mot de dog mum, moi, je le trouve beaucoup plus moderne. Et je me dis que, bah oui, ça vient, je pense que ça vient bien expliquer qui l'on est, en fait, qui on est quand on choisit d'avoir un animal et de le considérer un petit peu comme l'enfant qu'on n'a pas voulu avoir.
Et pourquoi est-ce que tu as décidé d'en parler alors ?
Alors j'ai décidé d'en parler parce que un, moi je me suis aussi interrogée sur moi, sur cette relation que j'avais avec mon chien et puis ce que ça voulait dire de moi. Donc d'abord c'était un petit peu une sorte d'introspection. Et puis également parce que j'étais pas mal interrogée, questionnée par mes amis, par les gens que je pouvais rencontrer. Et une des premières questions qui vient, c'est toujours quoi, t'as pas d'enfant ? Pourquoi t'as pas d'enfant ? Puis quand tu commences à dire que ton chien ça te suffit, bon, tout de suite on voit les yeux, les gens qui écarquillent un peu leurs yeux. Donc je dis quand même, mais c'est mon choix, je fais de mal à personne, c'est pas censé déranger qui que ce soit. Et puis ensuite, en regardant autour de moi, j'ai quand même vu aussi que je n'étais pas la seule à vivre ce type de relation avec un animal et qu'il n'y avait jamais vraiment eu de prise de parole sur le sujet. Donc je me suis dit, autant que ce soit moi qui le fasse, parce que comme je suis véto, comme je suis journaliste également, et tu l'as dit tout à l'heure en me présentant mon bouquin, tu as dit que c'était documenté. C'est-à-dire que je ne suis pas dans mon bouquin que sur de l'émotionnel. J'ai souhaité l'enrichir, oui, de données scientifiques, sociologiques, pour crédibiliser cette relation. Et c'était important pour moi.
Alors, quand le livre est sorti, c'est vrai qu'on dit que c'est un livre militant, finalement, c'est un livre qui explique les choses. Mais quand il est sorti, la réaction des gens, elle a été hyper exacerbée. Et on en a parlé à l'époque, parce qu'on se connaît depuis quand même très longtemps. On en a parlé et tu me disais que tu n'imaginais pas tout ce buzz, comme on dit aujourd'hui.
Alors, je savais que ça allait pouvoir susciter un petit peu de réaction. D'ailleurs, Sylvain Tesson, qui signe la préface de mon livre, dans la préface, dit que je m'expose aux anathèmes de mes contemporains.
Oui, c'est vrai. Il est prémonitoire.
voilà, il a vu juste. Donc ça, je le savais. Mais ce que je n'avais pas mesuré, et qui rattrape fondamentalement tout le reste et tous les torrents de boue que j'ai pu me prendre, c'est tous les messages que je reçois encore quotidiennement, Nathalie, de gens qui me remercient d'avoir pris la parole sur ce sujet-là, qui leur permet de ne plus se sentir finalement anormal et de pouvoir aussi assumer leur relation qu'ils ont avec leur animal. Et ça, je ne l'avais pas du tout anticipé, de me dire que mon livre allait être une forme de porte-parole finalement et puis d'une façon de lever un tabou qui faisait souffrir des gens. Voilà, donc je suis très heureuse de ça. Ouais.
Finalement, ce petit surnom de mémère à son chien, il collait à la peau de beaucoup de gens, de pépère à son chien, de mémère à son chien, et tu les as en quelque sorte un petit peu libérés. Oui.
Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai, attention, c'est avec beaucoup d'humilité, hein. Je pense que j'ai peut-être amené un petit peu ma pierre à l'édifice, et puis surtout à la fois d'aider ces gens, d'aider ou de leur permettre de libérer la parole, de se sentir légitime dans la relation qu'ils ont avec leur animal. Et en plus, je pense aussi et j'espère que mon livre c'est aussi un hommage pour les chiens et pour la place qu'ils ont dans nos vies aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'arrive en fait à faire les deux avec mon bouquin.
Je vous propose qu'on marque une petite pause, si vous voulez bien. Nathalie, vous connaissez bien maintenant, hein, vraiment le timing impressionnant. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
Depuis 1958, les laboratoires Mességuet sont à la pointe de la phytothérapie et de l'aromathérapie en France. Notre passion, votre bien-être naturel. Découvrez plus de 450 produits de santé et de bien-être élaborés avec soin. Huile essentielle pure, thé et tisane bio, compléments alimentaires innovants et une cosmétique à base de plantes respectueuse de votre peau et de l'environnement. Rendez-vous sur mességuet.fr pour des conseils d'experts et un shopping en toute sérénité. Laboratoire Mességuet, au naturel, tout simplement.
Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio.
Et l'invité de Nathalie Simon sur Nutri Radio cette semaine dans le plein de vitalité, c'est Hélène Gâteau, journaliste vétérinaire, qui nous explique qu'elle est aussi mémère à chien. Moi, je reprends votre expression.
Oh non, allez, dog mom.
Oui,
Hélène a
bon,
choisi un chien plutôt qu'un bambin. Ça suffit maintenant, Fabrice. Retournez dans votre chambre.
Allez, je retourne dans la niche.
Justement. Alors justement, vous êtes très mal élevé, Fabrice. Et j'allais parler à Hélène de son colonel, qui est un chien enfant, d'ailleurs, bon, voilà, un chien poilu, très mignon et surtout super bien élevé. Et je voulais qu'on en parle, Hélène, parce que adopter un chien, ça ne se fait pas sur un coup de tête, ça se fait bien, ça s'élève pour pouvoir avoir une vie normale avec lui. Est-ce qu'on est d'accord ?
Ah oui, parfaitement. C'est important de rappeler aux gens, aux auditeurs qui nous écoutent que à faire de la place à un animal, que ce soit un chien ou un chat dans sa vie, ça nécessite d'avoir du temps, d'avoir un minimum de connaissances sur cet animal, d'avoir aussi des moyens financiers, d'avoir une envie qui va être durable et de ne pas, comme tu le disais, agir que sur un coup de tête, et puis d'être prêt aux contraintes, aux sacrifices qui sont inhérents à partager sa vie avec un animal de compagnie. C'est les animaux ont des besoins qu'il va falloir respecter. Pourquoi ? À la fois pour leur bien-être à eux, mais aussi pour notre propre bien-être. Parce que si jamais un animal n'est pas bien dans ses pattes, il va développer des problèmes potentiellement de comportement, des problèmes d'anxiété, voire des maladies. Et tout ça, ça va ensuite se ressurgir sur la relation avec son animal. Et donc la relation, elle peut être détériorée. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que vont faire les gens qui se retrouvent démunis par rapport à une relation détériorée ? Ben, ils vont abandonner l'animal. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un minimum de connaissances et puis d'être sûr qu'on est prêt à tout ce qu'implique la possession d'un animal de compagnie dans sa vie.
Bon, toi, colonel, son référent, c'est toi, évidemment. Mais quand il y a une famille, quand il y a plusieurs personnes dans la maison, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on doit faire avec un animal ? Est-ce qu'il doit y avoir un seul référent ou est-ce qu'il doit obéir à tout le monde ?
Alors, déjà, il faut tous s'accorder sur justement, tu parles d'obéissance, c'est-à-dire qu'il faut tous avoir le même discours. Parce que si tu as le père qui dit blanc un moment, puis la mère qui dit noir, ou toi, tu as le droit de monter sur le canapé, mais en fait, avec telle personne, on n'a pas le droit, c'est pas cohérent. Un animal a besoin d'avoir un cadre qui soit cohérent, sinon il ne le comprend pas. Il faut être cohérent, il faut être patient, il faut être clair dans ce qu'on demande à un animal, et donc ça doit être appliqué par tout le monde au sein d'une famille. Ça, c'est important. Après, l'animal, généralement, va s'attacher à tous les membres d'une famille, mais sans dire qu'il va avoir une préférence, bien souvent se dégage au sein d'une famille une forme de leadership auprès d'une certaine personne. Donc, il ne faut pas s'en offusquer si l'animal n'a pas jeté son dévolu sur vous, mais plutôt par exemple sur votre mari ou sur votre fille aînée, parce que eux aussi, ils peuvent avoir leur préférence. Et chez les chats, bien souvent, les chats vont aller vers peut-être celui ou la personne qui n'avait pas forcément souhaité avoir un chat au sein de la famille. Donc ça, c'est assez classique pour les chats. Pour les chiens, c'est un petit peu moins vrai.
C'est assez rigolo ce que tu dis. Souvent, tu reçois des gens qui n'aiment pas les chats et direct, le chat va sur eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête aux chats ? Ils ont l'esprit de contradiction ?
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, les chats aiment être à l'initiative des contacts. Et donc, si vous recevez des gens à la maison et qu'il y a la nana qui est folle de chat, qui va aller se précipiter sur lui, essayer de lui faire des papouilles, etc., le chat peut vite prendre cela comme une agression, en fait. Lui, il n'a pas forcément envie d'être papouillé. Donc, s'il va sur quelqu'un, il va plutôt aller sur la personne qui n'aime pas trop les chats ou qui est un petit peu allergique au chat, parce que cette personne-là va avoir une certaine retenue envers l'animal. Et lui, ça lui convient mieux au chat parce qu'il va pouvoir exprimer ce que réellement il souhaite sans être pris dans les bras, papouillé dans tous les sens. Donc ça, c'est classique, ouais.
Ah je comprends mieux maintenant parce que toi, tu as ton colonel et moi, j'ai ma Izzy qui est une terreur. Alors justement, colonel, pour conclure, tu le définirais comment alors ? Parce qu'on n'a pas assez parlé de lui, de sa personne, de sa personnalité.
On n'a pas beaucoup parlé de lui, ouais. Alors, Colonel, c'est un border terrier. Donc, c'est un chien de chasse au départ, hein, même si moi, il n'a aucun instinct de chasse. C'est le chien qu'on voit dans Marie à tout prix. J'aime bien donner cette référence-là parce que les gens, souvent, border terrier, ils ne voient pas tellement ce que c'est. Mais quand je dis le chien dans Marie à tout prix, tout le monde fait « Ah oui, d'accord !» Donc, c'est un chien qui fait une dizaine de kilos, grand max, avec le poil dur qui est assez rustique. Et moi, je trouve que c'est un petit peu la force tranquille. C'est-à-dire que c'est des chiens qui ont un sacré tempérament quand même, mais qui arrivent à se canaliser. C'est un peu moins excité, par exemple, que Jack Russell Terrier. Mais à côté de ça, c'est plus vigoureux et plus pushy que, par exemple, un cavalier King Charles. Voilà. Moi, c'est vraiment un type de chien, un caractère qui me convient bien. En plus, c'est un terrier. Donc, les terriers, c'est assez têtu, c'est assez idée fixe. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, idée fixe. Donc, ça me ressemble bien. Voilà. C'est un chien qui est plutôt... j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie, moi, à ce qu'il soit... à l'aise dans sa vie, qu'il soit sociable, qu'il soit poli avec les autres chiens, mais poli aussi avec les humains. Voilà. Après, il a pas mal de droits à la maison, hein, parce que moi, mon chien, il a le droit d'aller sur le lit, il a le droit d'aller sur le canapé.
C'est l'enfant de la maison. C'est l'enfant de la maison.
Oui, bah ouais, il a le droit d'aller un petit peu partout. Si ce n'est que si j'avais un enfant, Nathalie, moi, il viendrait pas dormir avec moi, l'enfant. Tandis que le chien, j'ai pas trop de problème à le faire dormir avec moi. Tu vois, voilà une différence.
Alors justement, Hélène, voilà. Je l'ai connu, Colonel, quand il était tout petit, quand il est arrivé dans ta vie. Et c'est vrai que tu as mis vraiment beaucoup d'énergie à son éducation, entre guillemets. Oui. Mais c'était une éducation à la récompense. Explique-nous.
Alors à la récompense, oui. En fait, ça, faut trouver... toujours trouver, quand on éduque un animal, la façon dont on peut le motiver. Donc, soit ça va être le jeu. Tous les gens qui travaillent avec des chiens en gendarmerie, les chiens militaires, etc., ils sont récompensés au jeu, eux. Les particuliers, nous, on a plus tendance à récompenser à la friandise, parce que c'est un petit peu plus facile, je pense. Et puis après, il y a des chiens, eux, ça va être la caresse, ça va être le contact. Un petit peu plus rare, on va dire. Donc c'est vrai que moi, c'était à la récompense. Donc, quand Colonel me proposait un comportement qui me donnait satisfaction, eh bien, il avait une petite friandise. Ça, c'était quand il était petit. Et au fur et à mesure, eh bien, ça permet d'ancrer un comportement désiré. Et puis, à côté de ça, quand il me propose un comportement que je vais juger d'indésirable, je ne récompense pas ou alors je l'ignore. Et donc, ça va éteindre ce comportement indésirable. Voilà, c'est comme ça que moi, j'ai travaillé Colonel. Mais je conseille vraiment à tous les gens qui connaissent pas bien les chiens, surtout de ne pas hésiter à se faire aider, d'aller voir un éducateur. Il n'y a aucune honte à avoir un éducateur. C'est pas parce qu'on a eu un chien quand on était enfant qu'on connaît bien les chiens. Surtout que les connaissances au niveau justement de l'éducation et du comportement des chiens, ils évoluent énormément. Donc aujourd'hui, eh bien, beaucoup de choses qu'on a pu apprendre il y a 30 ans ont été remises en question. Donc surtout, ne pas hésiter à se faire aider par son veto et un éducateur ou un comportementaliste.
Puisqu'on est dans une émission où on parle de vitalité, est-ce que tu dirais que Colonel t'apaise ou est-ce que tu dirais qu'il te donne de l'énergie, qu'il te booste ?
Ah, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que à la fois quand je suis à la maison et qu'il est contre moi, il m'apaise, ça me fait du bien de retrouver quand j'ai une journée harassante ou des choses comme ça. Ça c'est prouvé scientifiquement, en plus, hein, que la présence d'un animal, ça permet de diminuer le rythme cardiaque, de sécréter des hormones qui viennent apporter du bien-être. Et à côté de ça, oui, ça me booste, parce que l'autre jour, par exemple, je l'avais confié à une copine, parce que j'avais pas mal de choses à faire chez moi, puis elle allait avec son chien, etc. Enfin bref, donc j'ai passé la journée sans mon chien. Et bien, je me suis rendu compte que j'étais quasiment pas sortie de la journée. J'étais restée sur mon ordi, etc., à bosser, à passer mes coups de fil, alors qu'avec mon chien, bah, ça m'oblige à sortir au minimum 3 fois par jour, à aller prendre l'air, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Donc en ça, ça m'apporte aussi de la vitalité, parce qu'un chien, bah, faut aller marcher avec son chien. Ça évite d'être tanké dans son canapé le week-end, quand il fait des journées maussades. Moi, je suis tout le temps dehors, beaucoup plus que les gens qui n'ont pas de chien, je pense. Donc voilà, c'est un peu des deux, un chien.
Un chien qui aide à casser la sédentarité. Fabrice, vous avez un chien ?
Non, je l'ai éliminé.
Vous avez plusieurs enfants.
Non, j'ai eu. Non.
Et votre vitalité est totalement émoussée.
Non, mon chien est parti avec le divorce. J'ai perdu la garde avec le divorce.
C'est pour ça que vous ne courez plus, que vous ne bougez plus, que vous êtes empâté un petit peu, mon petit Fabrice. Il va falloir qu'on se parle.
Je suis très sédentaire. Par contre, j'ai une question pour vous, Hélène. C'est-à-dire que le fait d'avoir effectivement un chien et qui prenne toute sa place et qui vous permet de développer cette relation particulière. Par rapport à un enfant, il y a aussi un rapport à la mort peut-être plus imminent. C'est un compagnon qui va peut-être vous quitter.
Ah ben oui, évidemment, c'est sûr que un chien, ça a une quinzaine d'années de vie. Donc oui, je vais être confrontée à ça. Alors j'essaie de pas trop y penser. En plus, j'ai pas de baguette magique, hein, de toute façon. Donc je sais que ça va exister. Je sais que ça va être terrible, ça va être dévastateur. Ça. Je le sais, mais j'essaye de calquer un peu ma vie sur celle de mon chien, c'est-à-dire de vivre au jour le jour et d'éviter de trop anticiper, et surtout anticiper des choses négatives qui viendraient m'assombrir ma vie au quotidien. Donc j'y pense pas trop, en fait. C'est les journalistes qui m'y font penser à chaque fois parce qu'on me pose régulièrement cette question-là. Mais oui, ça arrivera. En même temps, moi, à côté de ça, mon chien, il va jamais me snober. Il est toujours, il va jamais être désagréable avec moi, comme pourraient l'être, par exemple, des enfants ou des ados quand ils grandissent. Donc, voilà, j'essaie de me consoler un petit peu avec ça. En tout cas, je vous dis, j'essaie surtout de m'inspirer de lui et de vivre, de prendre du plaisir à chaque minute, à chaque instant.
Et c'est vrai qu'en plus, ce passage à l'adolescence, on fait son deuil, effectivement, de la relation qu'on a avec son enfant.
D'ailleurs, Hélène, ton chien, de temps en temps, il déchiquette un truc ou deux. Il a des petites crises d'ado.
Ah non, jamais.
Non. Alors jamais.
Non, autant mon précédent a pu me faire pas mal de conneries, mais alors lui, j'ai fait en sorte que justement, il soit bien éduqué par rapport à ça. Si un chien déchiquette et fait des conneries à la maison de destruction, c'est que ça prouve une certaine anxiété, un certain mal-être. Donc ça peut être parce que vous n'êtes pas assez présent pour lui, parce qu'il n'a pas assez de vie, il n'a pas une vie sociale avec d'autres chiens assez riches. Donc moi, comme j'ai fait en sorte de lui subvenir à tous ses besoins, eh bien, je n'ai pas de problème, en tout cas, de comportement indésirable avec Colonel. Il est juste un petit peu gueulard. Voilà. Si je dois dire un défaut de Colonel, c'est qu'il est un peu gueulard. Il aboie de temps en temps, quand il est excité, quand il est heureux. Voilà.
C'est bien, il s'exprime. En tout cas, merci Hélène, parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous voir des photos, des vidéos avec toi, avec Colonel. On sent cette complicité qui vous unit. Ah ça oui. donne juste
N'hésitez
envie d'avoir
pas,
un chien.
Sur mon Instagram, exactement. Sur mon Instagram, exactement. Je mets un petit peu tout. Et puis, vous procurez mon bouquin aussi. Hein, ouais. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant aux éditions Albin Michel.
Qui est sorti à la rentrée dernière. En septembre dernier.
Exactement.
Un carton.
Eh ben, merci beaucoup, oui. Hélène Gâteau. Merci d'avoir été avec nous, merci la Dog Mam. C'est la première fois et Hélène. C'est un partage, effectivement, qui est très, très intéressant. Donc, merci à vous. Cette émission, elle sera disponible en podcast à partir de dimanche. 18h. Au revoir Hélène.
Salut Hélène, salut Colonel.
Merci. Bah, par contre, il la boit pas la Colonel, vous voyez. C'est que non, quand on a besoin de lui, il n'est pas là. Voilà, c'est tout. Ouais. Merci Nathalie, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, évidemment.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio.